Alouette Mag.
Alouette Mag,
le magazine de la rédaction d'Alouette.
Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Tous en selle pour le deuxième numéro d'Alouette Mag.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Faut être honnête, j'ai pas la prétention d'être entré dans la légende du Tour.
Et pourtant, Thomas Vauclair est bel et bien entré définitivement dans la légende du Tour de France et dans le cœur des Français depuis ce 8 juillet 2004, jour où il décroche pour la première fois le maillot jaune. La prestigieuse et très convoitée tunique jaune, dont on célèbre cette année le centenaire. Alors que le grand départ du Tour vient d'être donné, Alouette Mag vous offre sur un plateau un tête-à-tête avec Thomas Vauclair, qui a repris sa place sur la moto de France Télévisions pour commenter la 106e édition de la Grande Boucle. C'est en toute simplicité que l'ancien coureur nous a reçus il y a quelques jours chez lui, en Vendée. Thomas Vauclair est revenu pour nous sur quelques-uns des plus grands moments de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle, comme ce jour où il est devenu papa, juste avant de prendre le départ du Tour de France en 2011. Aujourd'hui quadragénaire, le visage juvénile et la silhouette athlétique, Thomas Vauclair, retraité très actif, continue de vivre à 100 à l'heure. À noter que cet entretien a été réalisé juste avant sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme.
Alouette Mag, l'invité de la semaine.
Bonjour Thomas Vauclair, merci beaucoup de nous recevoir ici, à quelques jours du coup d'envoi du Tour de France. Vous, cette année encore, pour la deuxième année consécutive, vous ne serez pas sur le vélo, mais sur la moto de France Télévisions pour commenter les 21 étapes de ce 106e Tour de France. Vous avez donc été coureur cycliste professionnel pendant 16 ans, de 2001 à 2017. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être passé, entre guillemets, de l'autre côté, de ne plus être acteur, mais spectateur de la course ?
C'est assez difficile à décrire. Forcément, le changement est radical. J'ai participé à 15 Tours de France de 2003 à 2017. Et donc, cette année, en 2019, je m'apprête à suivre mon deuxième Tour de France et non pas à le faire sur le vélo. Et le changement, il est à tous les niveaux. Là où on avait une pression, où on était exclusivement concentré sur le sportif et là où j'étais uniquement concentré donc sur mon métier de coureur cycliste sans m'occuper du côté organisationnel, parce que quand on est coureur, on se laisse guider, c'est normal, on est assisté, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que le coureur, il est juste là pour être concentré sur son étape et il n'en a que faire des contraintes de trajet, d'organisation, de transport pour aller jusqu'aux étapes. Et ça, c'est des choses que j'ai découvert et puis surtout pour la deuxième année, je vais prendre un plaisir énorme, j'en suis convaincu, à être sur la moto, parce que c'est un poste privilégié. On m'aurait proposé de choisir d'être consultant cabine ou alors consultant sur la moto, j'aurais choisi immédiatement la moto. Pourquoi ? Parce que je reste vraiment dans l'action. À la fin du tour, ça fera 2 ans que j'ai arrêté ma carrière, mais j'ai pas encore totalement digéré cette première carrière, cette première vie, on va dire, cette première vie professionnelle. Et ça permet de rester un petit peu dans l'action et de rester dans le milieu cycliste aussi, dans un rôle que j'affectionne vraiment. Donc, en résumé, tout change sauf la beauté du tour, j'ai envie de dire.
Et comment France Télévisions est venue vous voir pour vous proposer ce poste de consultant ?
Alors, pour rien vous cacher, ça faisait des années déjà que on m'avait un peu aiguillé en disant on aimerait bien que le jour où t'arrêtes, tu viennes avec nous sur le Tour de France. Fallait-il encore savoir dans quel rôle ? Il s'est trouvé que lorsqu'ils sont venus me faire cette proposition, au même moment, le consultant en place sur la moto est parti manager l'équipe Cofidis. Donc une place est libérée naturellement et donc j'étais bien content parce que j'avais la place qui me faisait envie sur le Tour de France. Et puis surtout, j'arrivais pas dans une équipe en disant bon, c'est moi, je suis ancien coureur, j'ai porté le maillot jaune et tout, faites-moi une place. Non, il y a une place qui s'est libérée et j'ai mis personne dehors. Et les choses sont parfois bien faites sans les calculer.
Et donc là, vous évoquez bien sûr Cédric Vasseur.
C'est ça, c'est bien ça, Cédric Vasseur qui a été consultant sur la moto de France Télévisions pendant de nombreuses années et qui est passé manager de l'équipe Cofidis.
Thomas Vauclair, c'est en 2001 que vous devenez cycliste professionnel. Hein, vous signez avec la formation vendéenne Bonjour à l'époque, hein, dirigée par un certain Jean-René Bernaudot. Vous aviez alors 22 ans, mais alors avant de devenir pro, comment est-ce que ça a commencé cette passion pour le cyclisme ?
Moi, je suis né en Alsace. Après, à l'âge de 6 ans, mes parents sont partis travailler en Martinique, donc j'ai grandi là-bas. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai commencé le vélo en Martinique. La passion du vélo m'est venue assez naturellement, dans le sens où j'ai essayé d'autres sports. Et puis le vélo, j'ai plus accroché qu'un autre. Non pas que j'étais meilleur, parce que j'étais d'ailleurs assez nul ma première année. Mais j'aimais ça. Et donc je me suis accroché. Et après, à l'âge de 17 ans, il a fallu que je fasse un choix, parce que pour progresser, il fallait que je quitte la Martinique. Et donc j'ai été accepté à l'époque, ça s'appelait la section sportive régionale, donc la structure qui est aujourd'hui s'appelle le CREF à La Roche-sur-Yon, dirigé par Richard Tremblay. J'étais accepté en Vendée, donc j'ai débarqué en Vendée avec mes deux valises en famille d'accueil et puis à l'internat la semaine. Et voilà, donc j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai été repéré par les directeurs sportifs de l'équipe Vendée U, hein, qui existait déjà à l'époque, avant même que l'équipe professionnelle existe. C'était en 99. Et l'année suivante, Jean-René a réussi à créer l'équipe Bonjour, en 2000 donc. Et moi, je terminais mon BTS et il m'a dit, bah, écoute, termine tes études et l'année prochaine, si cette année ça se passe bien en termes de résultats, on te prendra dans l'équipe, ce qui s'est passé. C'est comme ça que la belle histoire, entre guillemets, a commencé avec Jean-René jusqu'à ma fin de carrière en 2017. Ouais.
En 2003, vous participez à votre premier Tour de France. Alors quand vous apprenez, alors là vous avez 24 ans, hein, vous apprenez que vous allez participer pour la première fois à la Grande Boucle, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête ?
Eh bien, en fin de compte, ça vient pas d'un seul coup. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le vélo, je me suis dit, bah, j'aimerais bien gagner des courses. Après, j'ai réussi à gagner des courses chez les jeunes. Et je me suis dit, pourquoi pas en gagner à la catégorie au-dessus, en élite. Et puis après, quand on arrive à gagner en élite, c'est-à-dire la catégorie juste avant professionnelle, on se dit, je vais peut-être pouvoir passer pro. Quand on passe pro, on fait son travail d'équipier. Et puis, on dit, bah, tiens, si j'arrive à bien faire mon travail, je vais peut-être réussir à gagner une course. Après, quand on gagne une course, puis une autre, et puis qu'on performe, on se dit, j'ai peut-être une chance de faire le tour. Donc ça vient petit à petit, c'est pas un gamin de 18 ans d'un seul coup, on dit ben, du jour au lendemain tu fais le tour. Donc bien sûr j'étais content, mais j'avais déjà fait beaucoup de courses, notamment le Tour d'Italie qui est un grand tour lors de ma première année. Donc bien sûr j'étais très fier quand on m'a dit que je serais au départ du tour, mais je savais aussi la difficulté de la tâche qui m'attendait, quoi. Et bon, c'était quelque chose parce que c'était le centenaire du Tour de France, avec un départ sous la Tour Eiffel, un prologue. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment grisé par l'événement parce qu'il n'y avait que 6 km et quelques de prologue. J'étais parti à fond. Au bout de 2 km, j'avais tout donné. J'ai fini à la ramasse, mais c'était l'excitation de l'événement. Ouais.
Il y a la magie du Tour, tout ce décorum, mais il y a aussi cette course à défendre, son maillot à défendre.
L'équipe de Jean-René Bernodeau, quelles que soient les appellations, a toujours été une équipe de baroudeurs, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu le meilleur coureur au monde, capable de gagner le Tour de France à la pédale. En revanche, on avait un état d'esprit offensif que peu d'équipes avaient. Et ça, c'est Jean-René qui a su nous l'inculquer. Et donc, en 2003, c'était voilà, pour aller faire des échappées, et en 2004, de la même manière. Alors après, cette façon de courir m'a permis d'endosser le maillot jaune, mais c'était vraiment tout pour l'offensive avec Jean-René. Ouais.
C'est en 2004 que vous décrochez pour la première fois ce maillot jaune. Et d'ailleurs, quelques semaines avant, vous aviez été sacré champion de France. Est-ce que vous vous dites, c'est un véritable rêve de gosse là, qui est en train de se réaliser ?
Déjà, le championnat de France qui précède, c'est bien de le signaler parce que j'avais déjà gagné quelques courses, mais de devenir champion de France une semaine avant le Tour de France, ça m'a vraiment installé dans le paysage cycliste, pas forcément du grand public, mais dans le paysage cycliste. Et ensuite, quand j'ai pu revêtir le maillot jaune, oui, c'est un rêve de gosse. Alors sur le moment, je me rendais pas forcément compte. Mais déjà, le soir, à l'hôtel, il y avait plein de journalistes. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je suis en tête du Tour, j'ai le maillot jaune, mais je vais pas le gagner, quoi. Et le lendemain, pour aller signer la feuille d'émargement, là, je me suis rendu compte de la portée que ça avait parce que je pouvais pas faire 10 mètres sans m'arrêter, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, il est en train de se passer quelque chose quand même.
Non seulement vous décrochez le maillot jaune, mais en plus, vous allez le porter durant 10 jours cette année-là, en 2004. Vous l'avez même défendu avec panache face à un certain Lance Armstrong. Les Champs-Élysées n'étaient pas loin, finalement.
Enfin, ils n'étaient pas loin, mais ils l'étaient quand même. C'est-à-dire que si on résume 2004, et je l'ai compris après, sur le moment, j'étais juste... Ben, je croquais dedans à pleines dents et je voulais juste être digne de ce maillot avec ben, ma jeunesse, ma fougue et cette fougue qui ne m'a pas lâché tout au long de ma carrière, d'ailleurs. Mais en tout cas, je ne calculais pas. Par la suite, j'ai compris à quel point, pourquoi ça avait aussi bien... voilà, il y avait une espèce de symbiose avec le public. C'est parce que ben, j'étais le petit jeune français contre le grand méchant américain avec tous les moyens. Et même si le combat était perdu d'avance, et ça, j'en étais convaincu, je savais très bien que j'allais pas gagner le tour. Mais le maillot jaune, il faut en être digne. Et en plus, toute mon équipe avait travaillé pour que je le conserve. Donc il y a eu quelques jours où il fallait que moi, je me batte pour le conserver en montagne. Et ça a fait du bien au public français, je pense. Et moi, j'ai vécu des moments inoubliables. Et puis c'était peut-être une bouffée d'oxygène aussi, parce que c'était des années compliquées. Il ne faut pas se le cacher dans le contexte du vélo.
Allez, petit Vauclair pour garder ce maillot jaune jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez. Regardez, un Thomas Vauclair qui va terminer à quelques encablures de Gilberto Simoni. Simoni qui en termine seulement maintenant à 3 minutes et 45 secondes. Il n'est pas très loin derrière Thomas Vauclair. Il faut l'encourager, il reste 450 mètres pour ce petit bonhomme. Ah, il faut faire le sprint, il peut le garder. 40 secondes encore pour Thomas Vauclair, il faut le voir absolument apparaître maintenant dans le virage. Il faut le voir apparaître, Thomas Vauclair, dernier effort. Allez, ça va être bon, Thomas. Allez, 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 oui, il va conserver son maillot jaune. Extraordinaire bonhomme, extraordinaire bonhomme. Il en a les larmes aux yeux, ce gamin-là. Il nous embellit ce Tour de France.
Et là, justement, pour vous, c'est un véritable tournant hein, dans votre carrière. Le monde cycliste, les journalistes vous découvrent et surtout, eh bien, tout simplement, vous entrez dans le cœur des Français.
Oui, le maillot jaune de 2004, ça a changé. Il y a eu un avant et un après, ça c'est sûr, au niveau de ma carrière. Obligatoirement, vu que ça apporte de la notoriété et tout, bon, c'est sûr que ça change un petit peu la vie aussi. Et bien sûr qu'aujourd'hui encore, je suis associé, alors selon les âges, quand c'est des gamins de 20 ans, bah, ils me parlent du Tour de France 2011, mais quand c'est des personnes plus âgées, leurs souvenirs remontent à 2004 souvent. Et c'est vrai que ce maillot jaune, cette aventure en jaune, on peut dire aventure en jaune, cette épopée, ça m'a fait rentrer un petit peu dans le cœur des gens qui aiment le vélo, quoi, parce que je pense que je donnais l'image vraie d'un coureur qui se prenait pas pour un autre et puis qui donnait tout sans calculer, tout en sachant que c'était perdu d'avance, mais c'est pas pour ça que je baissais les bras, quoi.
J'imagine qu'à 25 ans, on n'a pas encore conscience qu'on est en train d'entrer dans la légende du Tour, aux côtés des Anquetil, Poulidor, Lemon, Merckx. Là, à 25 ans, on est trop jeune pour imaginer tout ça.
Faut être honnête, j'ai pas la prétention d'être entré dans la légende du Tour, mais c'est pas pour ça que je suis pas fier de ce que j'ai pu faire, parce que... Je pense avoir été un peu un coureur à part, dans le sens que j'ai pas gagné le Tour, mais j'ai quand même marqué mon empreinte. Et le public l'a ressenti, les organisateurs, les médias aussi, ça passait bien, et j'étais nature. Mais sur le moment, on n'en a pas conscience. Non, à 25 ans, bien entendu qu'on n'en a pas conscience, et c'est peut-être mieux, parce que si on commence à se dire, alors même qu'on doit pédaler 200 km à travers les montagnes pyrénéennes ou alpestres, qu'on se dit, ce que je fais, c'est bien, je suis en train de rentrer dans la légende, soi-disant... Ouais, ça veut dire qu'on a déjà pris le citron et qu'on fait fausse route, quoi.
2004, il y a eu aussi une participation aux Jeux Olympiques d'Athènes. C'est pas rien, ça non plus.
Le cyclisme, c'est un sport à ce niveau-là un peu particulier, parce que pendant longtemps, les JO sont passés un peu après le Tour de France. C'est toujours un petit peu le cas. Si vous demandez à un coureur qui n'a jamais gagné le Tour ni les Jeux Olympiques, est-ce qu'il préfère gagner le Tour ou les JO, je pense que le Tour reviendra plus facilement dans la réponse. Mais c'est vrai que c'est une fierté quand les sportifs de haut niveau, même dans le cyclisme où les Jeux Olympiques n'ont pas l'importance qu'ils peuvent avoir dans l'athlétisme ou autre, je suis très fier de pouvoir dire, bah, par exemple, à mes enfants que j'ai participé aux Jeux Olympiques. J'aurais dû participer normalement une deuxième fois en 2012, mais le sélectionneur devait donner une sélection justement à une date butoir. Et à cette date-là, j'avais une douleur au genou et je n'étais pas sûr de pouvoir terminer le tour. Donc il n'a pas pris le risque. J'aurais pu avoir deux participations aux JO. J'en ai une, c'est l'essentiel. Je suis fier d'avoir participé aux Jeux Olympiques, parce que quel que soit le sport qu'on pratique, c'est la référence, quoi. C'est l'essence même du sport.
Avec une très honorable 20e place, hein, c'est bien cela.
Ce qui n'était pas si mal, parce que j'étais jeune, le contexte était très compliqué. J'étais très fier de faire 20e. Ouais.
En 2011, le Tour de France part devant du fameux passage du Gois. Et là, vous vous dites certainement, en tant que Vendéen d'adoption, il y a quelque chose à faire sur cette édition.
Après 2004, je me suis rendu compte avec les années à quel point il était difficile d'endosser le maillot jaune quand on était dans ma catégorie de coureur, c'est-à-dire ni le meilleur grimpeur, ni le meilleur sprinter pour les bonifications, ni le meilleur contre-la-montre. Après 2004, je savais que j'avais les moyens de gagner une étape, ce que j'ai réussi à faire en 2009, 2010 et ensuite 2012. Mais en 2011, au départ du Tour de France, j'ai pas d'objectif précis, mais je m'interdis rien. Mais je me dis pas, je vais porter le maillot jaune. Quand j'ai pris le maillot, il y en a qui m'ont posé la question, mais ça a l'air d'être tellement bien calculé depuis le début du Tour que c'était prévu, quoi. Je dis non, c'était pas prévu, mais je m'interdisais rien et je faisais attention à pas perdre de temps dans les premières étapes, parce que je savais très bien que... Ben justement, qu'on ne sait jamais, que si on fait une croix sur toute ambition, on a toutes les chances d'arriver à rien. Puis 2011, le Tour de France partait, il me semble, le samedi 3 juillet. Et mon épouse attend notre deuxième enfant. Le terme est prévu le 10 juillet et elle accouche dans la nuit du 28 au 29, dans la nuit du mardi au mercredi. Et donc, avant un Tour de France, j'avais rendez-vous à l'hôtel à Mouilleron-le-Captif, à 2 km de la maison, le mercredi à 13h. Et à 5h du matin, je quittais la maternité. Donc c'est juste invraisemblable pour un coureur cycliste à trois jours d'une épreuve comme un Tour de France de faire une nuit blanche. Mais quand les éléments se mettent bien, les premiers jours avant le Tour et les premiers jours du Tour, eh bien le matin j'avais l'entraînement. Après j'allais voir mon épouse à la maternité qui était à 6 km. Et ensuite je revenais à l'hôtel qui était à 3 km de la maison. Et tout tout ça, ça fait que j'étais dans un état, ça pouvait que se passer bien en 2011. Ouais.
Tout ce bouleversement dans votre vie personnelle, ça pouvait aussi vous perturber.
Oui, ça dépend peut-être des caractères de chacun. J'ai eu deux enfants en carrière, le troisième, ma petite dernière, Noah, c'était une fois que j'avais arrêté, mais les mois qui ont suivi la naissance de mes enfants, j'étais plus performant encore qu'habituellement. Chaque homme qui a la chance d'avoir un enfant, il y a toujours une période qui suit où on est un petit peu sur coussin d'air, où on a tellement de bonheur que tout nous réussit, quoi. Et, oui, ça aurait pu chambouler, mais là, ça a chamboulé, mais dans le bon sens, oui.
Et alors, vous êtes décidément abonné au chiffre 10, puisque cette année-là, vous avez votre maillot, vous porterez le maillot jaune pendant 10 jours, une fois encore.
Un clin d'œil du destin, d'ailleurs, quand j'ai commencé le vélo en 92-93, mes deux premières années, je crois que c'est en 92, où je regardais à la télé Pascal Lino, un Français qui avait porté le maillot jaune pendant 10 jours. Et je me disais, quand j'allais m'entraîner, ben, j'aimerais bien être comme lui un jour. Et maintenant, on en rigole, parce que quand je suis avec l'organisateur ASO pour lequel il officie, je lui raconte l'histoire. Il est grand-père maintenant. On est sur les courses de temps en temps et on rigole de ça. Et c'est vrai qu'en 2004 et 2011, c'est à chaque fois 10 jours. Même si c'est 10 journées en jaune, c'est la durée qui est le seul point commun, tant les deux aventures sont différentes.
Pour revenir à cette fameuse édition 2011, 10 jours avec le maillot jaune, et puis, alors ça c'est pas rien, vous finissez au pied du podium, la 4e place. Évidemment, là, les yeux des Français brillent.
En 2004, quand j'ai endossé le maillot, je dis bon, je vais le défendre le plus longtemps possible, on verra bien. Et en 2011, j'avais progressé, le contexte dans le cyclisme était également meilleur. Ça s'était assaini, l'atmosphère était assainie. Donc, il y avait des choses qui étaient réalisables qui n'étaient pas forcément quelques années auparavant. Et donc, quand j'avais ce maillot jaune en 2011, je me disais bon, je vais le garder le plus longtemps possible, mais je vais aussi essayer, c'est peut-être ma chance de ma carrière, de faire un bon classement général à Paris. Et c'est vrai que si j'avais pas fait quelques erreurs stratégiques un peu dues à ma fougue, à toujours mon goût de l'offensive, physiquement ma place était sur la deuxième marche du podium à Paris et pas au pied du podium, mais en même temps j'ai pas de regret parce que j'ai le sentiment d'avoir laissé passer la deuxième place parce que j'ai couru de manière offensive et que j'ai fait une ou deux erreurs stratégiques assez grosses, mais je suis convaincu que je pouvais pas gagner le tour parce que Cadel Evans, vainqueur cette année-là, avait des aptitudes contre la montre bien supérieures aux miennes et il y en avait un de très long juste avant l'arrivée à Paris la veille. J'ai le sentiment d'avoir laissé passer la deuxième place et non pas la première. Et j'en suis très heureux aujourd'hui parce que autant j'ai digéré cette déception de passer de deuxième à quatrième sur des erreurs de stratégie et avoir eu le sentiment d'avoir laissé la victoire du Tour de France, là, je crois qu'aujourd'hui, je m'en serais peut-être pas encore remis. Ouais.
L'année d'après, à Paris, vous ramenez le maillot de meilleur grimpeur.
Oui, le maillot à poids, c'est le maillot de meilleur grimpeur, c'est son appellation officielle. Mais moi, je préfère utiliser le mot. Bien sûr, il faut avoir des aptitudes de grimpeur, mais c'est un peu le maillot du panache. C'est-à-dire que c'est un maillot qui me ressemblait plus que le maillot jaune. Le maillot jaune, bon, on est quand même pour le défendre, il faut courir sur la défensive. Moi, j'arrivais pas trop, donc je faisais des fois des fautes quand même. Mais le maillot de meilleur grimpeur, ça m'aurait embêté de finir ma carrière sans le ramener à Paris parce que c'est quelque chose qui me ressemblait en façon de courir à l'attaque, pas compter ses efforts, pas penser au lendemain. Taper dedans et puis mais bien sûr il faut savoir quand même pédaler en montagne parce que sinon on n'arrive pas à le ramener et c'est une grosse fierté parce que c'est un maillot extrêmement populaire et puis Richard Virenque l'a ramené cette fois, c'est quand même pas n'importe qui. Un ami très proche l'avait ramené à Paris 2 ans avant, en 2010, Anthony Chertaud. Donc, oui, c'était pour moi une grosse fierté de ramener ce maillot à poids à Paris. Ouais.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Vous parliez de la paternité. Est-ce que cette relation que vous avez avec Jean-René Bernodeau, parce qu'on voit votre fidélité, hein, vous avez finalement, vous êtes resté dans son équipe depuis le début. Est-ce que on peut parler justement d'une sorte de relation père-fils?
Non, certainement pas. Avec Jean-René, on a une relation professionnelle très profonde. Ça a toujours été mon employeur, j'ai toujours été son employé. Je lui ai toujours été fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il a des valeurs qui me plaisaient et qui me plaisent toujours d'ailleurs. Et puis surtout, je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi, pour tout le monde, pour me sentir bien. Et j'ai toujours pensé que si on voulait changer d'équipe, il fallait avoir un bon motif pour le faire. Je n'ai pas trouvé ce motif-là. Il y a des fois où ça a été compliqué, c'est-à-dire en fin de saison, des fois on n'avait pas de sponsor. Il fallait serrer quand même les fesses pour ne pas craquer, pas succomber aux sirènes des autres équipes qui vous présentaient des contrats avec des chiffres qui faisait envie quoi, par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais la relation que j'ai avec Jean-René est très sincère, très profonde. Mais on ne peut pas parler de relation père-fils. Non. Employé-employeur. Maintenant, presque des liens d'amitié. On est encore plus proche depuis que j'ai arrêté ma carrière. Parce qu'il y a toujours, quand on est coureur, quand son manager, on ne peut pas être ami avec. Parce que ça veut dire qu'on passe une barrière qui peut-être justement un jour met un terme à une collaboration, parce que s'il y a de l'affection, s'il y a trop d'affection entre un manager et son coureur, ça veut dire que le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut finir un peu mal, ce qui n'a pas été le cas avec Jean-René. Et c'est vrai que quand je le revois maintenant, c'est avec grand plaisir, on échange, et quand il a besoin de mon avis, il m'appelle aussi. Et puis voilà, ça reste Jean-René, je reste très proche de lui. Ouais.
Quand on regarde dans le rétro, on évoque évidemment toutes ces années, tout ce formidable palmarès. Que ressentez-vous ? Est-ce qu'il y a de la fierté, un peu de nostalgie ? On pourrait même être tenté de parler d'une sorte de baby blues, par exemple.
Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai arrêté en 2017, donc en juillet, j'ai eu la chance et le luxe de pouvoir arrêter où et quand je voulais. En revanche, pour être franc, quand je vais sur les courses de vélo, ça me fait encore envie. Quand je vois les coureurs, j'ai envie d'être à leur place. Ça sera à refaire. Mon choix d'arrêt de carrière, je ferai exactement le même. Mais oui, ça manque, la compétition, les sacrifices qui vont avec, tous les entraînements et tout. Bien sûr, ça manque pas parce que c'est extrêmement difficile. Mais oui, il y a une part de nostalgie et qu'il faut justement digérer. C'est pour ça que je multiplie un petit peu les postes, les missions. Aujourd'hui, j'ai pas un métier à l'année, j'occupe différents postes, hein, que ça soit consultant auprès de France Télévisions sur le Tour de France, j'ai un rôle d'ambassadeur auprès de Amaury Sport Organisation aussi sur d'autres épreuves, j'ai des relations sponsors aussi à honorer, je m'apprête à lancer aussi des interventions en entreprise que j'entamerai en septembre parce que j'ai pas mal de sollicitations. Donc voilà, je me diversifie un petit peu pour trouver ma voie. Je suis en phase de transition, de digestion de ma première carrière et je suis en train d'essayer de trouver celle qui constituera ma deuxième carrière.
Donc vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, de tourner une nouvelle page. D'ailleurs, vous avez passé un diplôme à Limoges pour devenir manager sportif.
Oui, j'ai intégré au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges la seule formation qui permet de délivrer le seul diplôme reconnu par l'État. C'est un diplôme de manager de club sportif professionnel, c'est la dénomination exacte. Donc c'est reconnu comme un master que je terminerai en septembre. C'est une formation sur 2 ans à laquelle je tenais beaucoup et que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer. C'est une formation à laquelle ont participé, pour les plus connus, Zinedine Zidane, Laurent Blanc. Là, j'étais avec Thierry Omeyer en formation. Donc c'est vraiment assez élitiste et j'ai dans un coin de la tête de diriger une équipe cycliste à moyen terme, pas à court terme. Peut-être qu'un jour je serai à la tête d'une équipe cycliste et c'est pour ça que j'ai passé ce diplôme.
Peut-être créer d'ailleurs votre propre formation ?
Tant que l'équipe de Jean-René existe, je ne me vois pas créer une équipe parallèle. Rien ne m'en empêcherait de tenter le coup, mais l'équipe de Jean-René, c'est mon équipe de toujours. Tant qu'elle existe, je ne me vois pas créer une équipe en parallèle. Après, pourquoi pas, dans quelques années, prendre la suite de Jean-René. Mais là encore, c'est avec un point d'interrogation. Les choses sont très claires entre Jean-René et moi. On en a discuté. Mes activités n'ont aucun rapport avec l'équipe de Jean-René depuis 2 ans. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas d'excellent rapport avec lui.
On sent votre sens de la sincérité, la fidélité. C'est ça aussi, finalement, qui plaît aux Français, même si aujourd'hui, vous êtes un jeune retraité du cyclisme.
Oui, je pense que ça plaît. Après, moi, je me suis jamais... il y a peut-être quelques mois, en 2005, quand ça a suivi le maillot jaune, où si je pense que j'ai pu prendre la grosse tête un peu une fois dans ma carrière, c'est à ce moment-là, parce qu'on a 25 ans, qu'on est connu, qu'on gagne un peu de sous, et voilà. Mais après, le sport cycliste, ça vous ramène vite les deux pieds sur terre. Hein. Quand vous prenez quelques volées sur le terrain, vous vous rappelez vite que vous êtes juste un sportif et qu'il faut s'entraîner pour performer, et c'est tout. Donc... Je suis très fier de ce que j'ai pu réaliser. Si on m'avait dit ça au début de ma carrière, les résultats, les maillots jaunes, les courses gagnées, champion de France 2 fois et tout, j'y aurais pas cru, honnêtement. Mais en même temps, je me suis jamais pris non plus pour un chirurgien qui sauvait un enfant en transplantant un cœur. C'est 2 choses différentes.
Quand le public parle de vos différents titres, peut-être qu'il ne pense pas à tous ces moments de doute, ces moments de douleur, ces moments difficiles de séparation avec votre famille.
Oui, c'est sûr que... Quand vous voyez une étape du Tour de France à la télé ou que vous regardez les coureurs passer, vous voyez le jour J, ce qui se passe, les coureurs performer. Mais pour en arriver là, il y a des mois de travail, des mois de sacrifice, des absences. Quand j'étais coureur, je partais au bas mot 150 jours par an de la maison, sachant que quand j'étais à la maison, il fallait que j'aille m'entraîner entre 2 et 7 heures par jour. Et vous n'allez pas, quand vous êtes coureur cycliste, vous vous levez matin, vous n'allez pas manger des pains au chocolat et vous n'allez pas manger chez des amis le soir en buvant un verre de vin et en allant au resto. Vous n'avez pas de week-end quand vous êtes coureur cycliste. La vie sociale, c'est très compliqué. Donc pour l'épouse ou la famille, une fois que vous avez des enfants, c'est compliqué aussi. C'est vrai qu'il y a. Et puis, on voit toujours les courses où ça marche, mais les jours où ça marche moins, où vous avez travaillé dur et puis que vous n'avez pas les résultats escomptés, là, il n'y a pas de journalistes qui viennent vous dire félicitations ou quoi. Donc là, il faut savoir pour qui vous pédalez, et une fois qu'on a compris qu'on pédale pour soi-même, ça aide beaucoup pour évoluer quand on est coureur pro.
Et ce public nombreux le long des routes qui fait parfois de nombreux kilomètres pour venir voir les coureurs, qui attendent parfois des heures, peu importe les conditions météo, finalement c'est pour vous apercevoir seulement quelques secondes, ça doit faire chaud au cœur en tant que coureur.
Oui, bien sûr, on s'en rend compte et on s'en rend plus compte depuis que j'ai arrêté. C'est-à-dire que c'est incroyable les gens, ce qu'ils sont prêts à faire en termes de temps. Des fois, comme vous dites, il y a une sale météo, les routes sont barrées très tôt. Il faut venir longtemps avant, les parkings prévus pour le public sont loin, des fois il faut marcher 2-3 km pour aller au départ ou de la course, et sur le tour je parle, et c'est vrai que c'est impressionnant, ça ne freine pas le public. Certes, il y a la caravane publicitaire qui attire les plus jeunes aussi, donc et puis les moins jeunes aussi d'ailleurs, qui sont assez friands des goodies. Mais le vélo, c'est le seul sport où le stade, c'est la route, et c'est un sport gratuit. C'est-à-dire que vous allez au départ d'une étape, vous pouvez voir le meilleur coureur au monde à quelques mètres de vous, presque le toucher, pour aller, à part les frais de carburant, pour rien, quoi. Et ça, c'est le seul sport où vous pouvez trouver ça. Vous ne pourrez pas aller voir Neymar en disant... vous ne pourrez pas aller au stade en disant à votre fils « Bien, on va aller tout près de Neymar ». Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le vélo, vous pouvez dire « Ben, on va voir passer les coureurs, on va les voir passer tout près ». Et en plus, c'est ouvert à tous parce que ce n'est pas réservé à une élite qui a les moyens d'acheter des billets très chers. C'est ouvert à tout le monde.
Pourquoi le Tour de France a cette image aussi prestigieuse? Parce qu'il y en a d'autres, des tours, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Et pourtant, ces courses restent dans l'ombre de la Grande Boucle.
Le Tour de France, c'est le seul événement cycliste qui a réussi à passer au stade d'événement tout court, événement mondial tout court. Pourquoi? Je pense que les raisons sont multiples, mais en même temps difficiles. On peut pas tout expliquer non plus. Il y a eu, je pense, la période à laquelle il a été organisé. Le mois de juillet, c'est les vacances, c'est les premiers congés payés aussi. Il y a assez longtemps, c'est les premiers congés payés pour les Français. C'est donc après, c'était la seule manifestation sportive qui était possible de voir en vacances et qui était gratuite. Et après, oui, le mois de juillet, ça permet une ouverture sur l'ensemble des pays, d'abord européens, parce que la météo est belle, contrairement à des fois au mois de mai pour le Tour d'Italie, au mois d'avril à l'époque pour le Tour d'Espagne. Et puis et après, il y a des choses qu'on n'explique pas. Le Tour de France, la France, c'est aussi le pays le plus touristique du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a des images magnifiques. Déjà depuis des années, il y a des images d'hélicoptères de plus en plus belles. C'est transmis dans 200 pays. Tout ça contribue à ce que ça reste très largement au-dessus des autres événements sportifs. Faut pas s'y tromper. Moi, j'ai souvent donné le conseil quand j'étais coureur avec les petits jeunes qui faisaient leur premier tour. Attention les gars, cette course, c'est le Tour de France, il y a des particularités. Mais c'est pas ce qui est normal dans le vélo. Le tour, c'est ce qui est extraordinaire. Donc vous avez la chance de le faire une fois dans l'année. C'est pas pour ça qu'il faut dénigrer les autres courses, parce que le tour, c'est la seule course qui est pas normale, j'ai envie de dire. Et le sport cycliste, c'est 3 semaines dans l'année le Tour de France, mais il y a plein de courses et il y a plein de mois où vous aurez moins de monde sur le bord de les routes, mais où il y aura des vrais passionnés qui vont venir vous voir passer et où il y aura quand même une concurrence et un esprit de compétition largement comparable à celui du Tour. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ouais. Et moi, dans ma carrière, je me suis forcé, sans me forcer, j'ai toujours pris plaisir à aller au charbon sur l'étoile de Bessèges au mois de février, dans le froid, la pluie, des fois la neige, ou autour de Vendée en octobre, souvent sous la pluie, parce que j'aime le vélo dans son ensemble, et j'étais un coureur de toute l'année, même si je suis toujours adossé à cette image de maillot jaune. Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, quadragénaire, et évidemment, le vélo fait encore partie de votre vie. La preuve, vous avez fait une formidable performance lors du Alpha Ironman au Sable d'Olonne, lors d'une course en relais avec Mathis Rocard pour la natation et Julien Cugnot pour la course à pied.
Ouais, c'est une idée un peu pas folle, mais sympa. C'est-à-dire que j'ai un partenaire, je suis ambassadeur de la marque MX3 Nutrition, qui est basée au Sable d'Olonne, une marque sablaise donc. Et le boss de Christophe Landais nous a dit, est-ce que ça vous dit les gars qu'on fasse une équipe pour faire le relais? Je dis bon, pas de problème, c'était il y a un an. Donc 90 km de vélo, je savais que je pouvais les faire. À quelle vitesse après? Ça, c'était la question. Je me suis quand même entraîné, je vais pas le cacher, parce que pour sortir une performance, pour battre le champion du monde en titre de le champion du monde d'Ironman sur la partie vélo, il faut quand même appuyer justement sur les pédales. Donc j'ai pas mal roulé, ça m'a motivé, c'est bien parce que ça me permet de garder aussi un peu la ligne et la condition. Et c'est des petits objectifs comme ça, comme cette Half Ironman au Sable d'Olonne en relais, qui permettent de retrouver un peu ce goût de la compétition. Alors pendant quelques mois après l'arrêt de ma carrière, j'avais perdu ce goût de la compétition vraiment. J'avais pas du tout envie de me faire mal physiquement, donc j'allais faire des petits tours de vélo, mais sans taper dedans. Et depuis, j'ai fait un ou deux trails, j'ai fait ce triathlon en relais. Et donc oui, je prends plaisir. C'est pas une contrainte pour moi quand j'ai le temps. Je prends plaisir à aller faire du sport. D'ailleurs, à la fin de cette interview, je vais aller faire un petit tour de vélo. Ouais.
La compétition, mais on va dire sans la pression, sans les contraintes. Ça vous plaît finalement depuis que vous êtes à la retraite?
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment d'un point de vue personnel. Alors là, il y avait sur Life Ironman, il y avait quand même un petit challenge parce qu'on avait une belle équipe et avec Mathis et Julien, ils sont en activité, voilà, ils sont à très haut niveau. Donc moi qui suis retraité, je voulais pas les plomber. Donc il a fallu que je m'entraîne et que je me fasse mal aux jambes. Mais sinon, j'aborde le sport d'une manière très personnelle, c'est-à-dire que c'est pour me dépenser, me sentir bien. Et quand je me lance des challenges, c'est vraiment d'un point de vue personnel et pas en recherche de performance ou de résultats et sans pression. Et ça, c'est le côté sympa de l'après-carrière.
Ouais. Vous êtes papa, vous évoquiez la paternité tout à l'heure. Est-ce que déjà l'un de vos enfants a pu vous dire « Papa, moi, je veux faire comme toi, je veux être coureur professionnel ».
J'ai un garçon, j'ai deux filles. Mon grand, il a 10 ans, il s'appelle Maé. Il fait d'autres sports, il fait du hand, il fait du tennis. Bon, il a quand même tenté 2-3 fois de parler de vélo, mais jamais en disant je vais être coureur professionnel. Non, il aimerait bien faire du vélo, mais déjà sa maman lui a interdit totalement. Moi, j'ai négocié en disant ça sera pas avant la 6e, et dernière, comme l'an prochain il va en 6e, du coup j'ai repoussé d'un an, j'ai dit ça sera pas avant la 5e. Et donc quand on lui demande est-ce qu'il fera du vélo, il a dit pour l'instant j'ai pas le droit, pas avant la 5e. Voilà. Et puis mes deux filles, alors la petite dernière qui a 20 mois, elle n'a pas encore donné son opinion, et celle qui a 7 ans et demi, Lila, elle m'en a pas parlé, mais bien entendu je les pousserai certainement pas. Ils feront ce qu'ils veulent, que ce soit du sport ou autre chose, mais bien entendu que s'ils choisissent le vélo, quel que soit le niveau, quel type de pratique, je serais très content de leur donner des conseils, je serais très fier, mais loin de moi l'idée de pousser l'un de mes trois enfants à vouloir faire une carrière dans le vélo. J'estime qu'il faut que ça vienne de l'enfant lui-même, de faire ce qu'il a envie, tout simplement, que ce soit des études, du sport, de la musique ou autre.
Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
D'avoir une deuxième carrière aussi, voilà, dont je serai aussi fier que la première. Donc rendez-vous dans 20 ans pour faire le bilan et d'être à l'heure de la vraie retraite et pas seulement retraite sportive.
Merci beaucoup Thomas Vauclair.
Merci à vous.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.